peut-être. Tu as vu l'article du Journal de Québec qui parlait des parasites qui donnent le tournis aux truites, mais c'est d'une tristesse incroyable.
Mais c'est surtout qu'on est en pleine saison de pêche, puis moi, je me suis demandé, en voyant ces truites-là qui sont contorsionnées, ça peut-tu être néfaste pour nous si on les mange?
Ben, moi, honnêtement, quand c'est pas joli, je mange pas. Si j'ai des petites truites comme ça qui sont maganées comme ça, ça se peut que je les remette tout simplement à l'eau ou que je les achève. Ça va dépendre de ce que mon chum Martin Bourget, qui est le président du groupe Aventure Chasse-Pêche, va me dire sur ce dossier-là. Parce que chez les chasseurs, chez les pêcheurs, c'est le sujet du jour et ça a l'air que c'est un parasite qui est dans 21 États américains et dans l'Ouest canadien. Donc probablement que dans les prochains mois, les prochaines semaines, ça pourrait venir chez nous. Salut Martin!
Salut, vous autres, comment ça va?
Ça va bien. On parle d'un ver microscopique là, qui provoque des malformations chez les truites là, qui laissent craindre le pire. De ton côté, tu es un gars qui connaît ça. Où est-ce que tu en es, toi, dans tes réflexions par rapport à ça?
Ben, essentiellement, c'est quelque chose qu'on n'a pas rapporté encore. Nous autres, on a fait des déclarations parce que c'est une maladie à déclaration obligatoire. Là. Mais quand on dit que c'est présent aux États-Unis présentement, dans l'Ouest canadien, on a vu des symptômes qui ressemblent à ça. Par contre, on les a vus dans les lacs ensemencés. Puis, des fois, ça porte à confusion parce qu'une truite ensemencée peut avoir des nageoires plus courtes d'un côté, être kinkée au niveau de la colonne vertébrale, puis tourner en rond. Le tournis de la truite, c'est quelque chose qui inquiète énormément parce que ça se transmet de manière assez spectaculaire. Hein. Il faut savoir que au départ, c'est une bactérie, en fait, là, qui va affecter, qui est mortelle pour les salmonidés. Ça affecte la truite fardée, le saumon coho, truite arc-en-ciel, saumon rouge, saumon chinook, saumon de l'Atlantique, truite brune et truite mouchetée, donc l'ombre de fontaine. Ça se transmet par un petit ver tubiflex qui est présent dans nos cours d'eau. Ça se transite à l'état de spore, donc très, très, très petit. Et nécessairement, si tu as marché sur le bord d'un lac qui est infecté avec tes bottes, il reste de la boîte en dessous de tes bottes ou que tu n'as pas adéquatement nettoyé ton embarcation avant de changer de cours d'eau, que tu as un morceau de poisson qui est infecté que tu utilises pour pêcher illégalement dans un autre lac parce qu'on ne peut plus pêcher avec des poissons à pas ou que tu as du matériel, des trolls ou quoi que ce soit qui sont infectés, bien nécessairement, tu vas le transporter d'un lac à l'autre puis assez facilement parce que je te dirais que ça survit à un point de congélation de moins 20 degrés Celsius. Fait que si tu penses que l'hiver a eu raison de la bactérie sur la coque de ton bateau, bien c'est pas le cas.
Ouais, le parasite s'appelle, je vais sortir mon latin, Myxobolus cerebralis.
Oui.
Là, j'imagine que les États sont un peu en alerte. Est-ce que c'est pour ça? Parce que quand on se promène sur les routes des États-Unis, là, ben des fois, tu vois une filée de camions avec leurs bateaux derrière, puis ils ont tout un endroit qui est hyper surveillé, là, où ils doivent faire la vidange de leur bateau. Ils doivent frotter leur bateau si ça n'avait pas été fait. C'est-tu pour ça? C'est qu'on veut pas que les bactéries se prolifèrent dans d'autres États?
C'est entre autres à cause de ça, mais il y a énormément d'autres choses qui concernent énormément l'épinoche puis plein d'autres petites plantes envahissantes dont les spores vont se loger sur la coque des bateaux et tu vas transposer d'un lac à l'autre. Donc, tu vas te transposer des espèces envahissantes. Puis quand on parle d'algues proprement dit, bien, quand tu as une proportion d'algues qui est trop élevée dans un lac, il devient inutilisable au niveau de la plaisance. Il va prendre carrément la place de d'autres espèces végétales dans le lac. Il va les subjuguer, fait qu'il va les faire crever. Puis tu as aussi énormément de petits gamarus, copépodes, puis d'autres petites bébites aquatiques qui peuvent facilement survivre sur la coque jusqu'au prochain lac. Mais je te dirais que c'est une pratique qui est très, très, très courante aux États-Unis. On la voit de plus en plus au Québec. Il y a des lacs, hein, comme par exemple dans le coin de Saint-Rémy-d'Amherst, en haut. Là, je pense que c'est le lac Elmer, si je ne me trompe pas. C'est un des beaux lacs au Québec qui est à accès gratuit. Par contre, tu es obligé de passer par la station de nettoyage. À la station de nettoyage, on te donne un petit billet qui certifie que tu as nettoyé adéquatement ton embarcation. Et ce billet-là est nécessaire pour embarquer sur le lac. Et ça, c'est ce qu'on veut voir apparaître de plus en plus. On a fait des reportages avec le ministère sur... Faites une petite recherche sur les espèces aquatiques envahissantes sur Google aujourd'hui. Là. Vous allez vous coucher avec des nouvelles connaissances, à voir à quel point ça peut être dangereux de changer un bateau ou de l'équipement de lac sans l'avoir nettoyé correctement. Ne serait-ce que pour les algues en suspension, tu vas avoir un beau lac à l'eau parfaitement claire. Tu as un plaisancier qui arrive d'un lac vert. Il va mouiller sa coque, donc il va mettre son bateau à l'eau dans ton beau lac à l'eau claire. Dans 2 ans, ton lac est vert bord en bord.
OK. Si Pascal décide de manger la truite pareil, là, on parle d'une truite qui est un peu déformée en raison du parasite qui est à l'intérieur, là. Est-ce que Pascal va se déformer? Va-t-il être malade?
Non, non, elle n'aura pas la nageoire qui va virer noire, non. Il n'y a pas aucun problème pour la consommation humaine.
Ouais.
C'est sûr que c'est impressionnant. Puis généralement, ça ne se rend pas à consommation humaine parce que les gens, quand ils pêchent ça, ben ouais, c'est ragoûtant un peu. Fait qu'ils vont leur mettre à l'eau. Malheureusement, la truite va mourir. De toute façon, elle serait morte de l'infectation là, parce que c'est une maladie qui est mortelle chez la truite.
Ouais. Moi, j'y remets à l'eau, même s'ils ne sont pas bizarres, mais c'est pas en faisant exprès. Là. Mais c'est une autre histoire. Mais je ne toucherai pas à ça. Même
toi
si même
truite
tu me rassures.
Hein? On voulait en venir à ça, mais toi aussi, tes truites et ton en rond, mais ils sont pas malades. Ils ont juste une chaîne.
Puis je l'échappe dans le lac, mais une autre histoire. C'est juste une palabre. Mais j'aurais, même si tu me rassures en ce moment, Martin, moi, je ne mangerais pas ça.
Non, ben c'est le réflexe des gens. On a fait des articles dans les dernières années dans Aventure Chasse-Pêche sur les maladies les plus couramment rencontrées qui sont très visuelles et ragoûtantes chez les poissons, à savoir lesquelles sont consommables ou pas. Ça vaudrait peut-être la peine que je vous envoie le PDF de cet article-là. C'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Dans le cas de cette maladie particulière-là, attention au public, c'est une maladie qu'on appelle à déclaration obligatoire au Canada. Donc, si vous suspectez ou détectez cette infection-là sur un poisson dans la liste que je vous ai nommée, dans le fond, tous les salmonidés du Canada, c'est important d'en aviser l'Agence canadienne d'inspection des aliments. C'est même contre la loi de ne pas le déclarer. C'est une maladie à déclaration obligatoire. On veut en faire un suivi très, très, très précis pour comprendre l'évolution de cette maladie-là. Parce que présentement, ce qui est le plus grave avec cette maladie-là, c'est qu'il n'existe aucun traitement contre la maladie connu.
OK. Dans les autres bonnes nouvelles aussi, on a trouvé dans le bois, chez certaines tiques, quelque chose de pire que la maladie de Lyme.
Ah oui, ça a l'air d'un nom champignon magique, là, la fièvre pourprée des montagnes rocheuses. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a trouvé le nom.
On dirait le nom d'un plat des restaurants où Pascal fréquente. Là,
ou encore une émission de télé des années 80, des années 40.
Non, on va avoir mal au ventre, c'est sûr.
Ce plat-là vaut déjà 80$ avec le nom que tu as donné.
Exactement, exactement. La fièvre pourprée des montagnes rocheuses, à faire attention et à ne pas confondre avec la maladie de Lyme. La maladie de Lyme qui, le Canada a accepté son diagnostic dernièrement, dans les dernières années. Il l'a reconnu comme maladie professionnelle dans les années qui ont suivi. Maintenant, on a des traitements possibles. On se souviendra que les gens devaient se déporter aux États-Unis pour se faire traiter lorsqu'ils étaient diagnostiqués. La maladie de Lyme, elle est transmise par la tique à patte noire. Et c'est déjà très répandu. On demande aux gens déjà de se protéger énormément contre la tique, porter des vêtements longs, quitte à taper le bas du pantalon après la botte puis la manche après le gant quand on est à la chasse pour ne pas risquer de se faire transmettre la maladie. Les inspections physiques sont très importantes quand on revient dans le bois. Une bonne douche pour regarder partout, dans tous les plis. Messieurs, levez tous les bouts de peau qui pendent, regardez dans tous les plis parce que c'est souvent là que ça s'accroche et que ça pique. Cette nouvelle maladie-là, dont on a un premier cas au Québec, elle est transmise par une autre tique, qui n'est pas la tique à patte noire, qui est une autre tique qu'on appelle la tique américaine du chien ou la tique des bois, la tique sanguine, la tique des bois des montagnes rocheuses. Donc, c'est la Andersonie qui n'est pas la même. Premier symptôme, forte fièvre, des maux de tête intenses, des éruptions cutanées qui ne ressemblent ni à la rougeole ni à la varicelle. Yeah. Ce n'est pas une picotte que vous avez. Il faut consulter. En tout temps, si vous trouvez une tique, lorsque vous la retirez, première des choses, allez en pharmacie chercher un nécessaire d'extraction de tique. Tirez pas là-dessus avec vos doigts. Dans le nécessaire d'extraction de tique, il devrait y avoir une petite fiole pour conserver la tique. C'est hyper important que le laboratoire à l'hôpital puisse avoir accès à cette tique-là. Dans le cas de la maladie pourprée des rocheuses, dans certains cas, ça peut aller jusqu'à des séquelles permanentes ou chroniques, comme l'amputation des bras, jambes, doigts, orteils, perte auditive, invalidité mentale ou même la mort. Il y a des cas de décès qui ont été répertoriés. Ce que ça veut dire, protégez-vous. Regardez le cycle de vie de la tique. La tique a besoin de s'accrocher après un animal pour pomper du sang, être capable de filer ses œufs pour être rejeté dans l'herbe pour se réaccrocher après un autre animal. Elle cherche à s'accrocher à vous, autrement, elle ne survivra pas. Ça veut dire couvrez vos bouts de peau quand vous vous promenez dans l'herbe longue. Ça devient de plus en plus important. Les cas de maladie de Lyme, ils s'en répertorient énormément. Il y a un moyen de prévention qui est très efficace et très connu qui s'appelle la permétrine. Ils se vendent des vêtements qui sont infusés à la permétrine et ils se vendent aussi des canettes de permétrine pour traiter vos vêtements. Malheureusement, à l'heure actuelle, même si le Canada reconnaît les deux maladies, le diagnostic et le traitement, le Canada continue à interdire l'importation de permethrine alors qu'il est utilisé dans tous les autres pays de la planète pour protéger leur population.
On a peur de quoi, Martin?
Hein?
On a peur de quoi en l'interdisant encore?
Ah, c'est très simple. C'est le même principe que dans le temps de la fibromyalgie au début de du diagnostic de la maladie de Lyme. Au Québec et au Canada, on doit toujours repasser par notre collège des médecins pour refaire l'ensemble des études qui ont été faites ailleurs pour que notre collège royal dise « oui, c'est bon, on le reconnaît ». Là, il y a des entomologistes, il y a des biochimistes, il y a des biologistes qui se penchent sur la question de la permethrine. Et pour l'instant, c'est tout simplement que ça n'a pas passé nos critères à nous. Donc, on ne permet pas l'entrée. On continue à diagnostiquer des maladies de Lyme, puis là, maintenant, des fièvres pourprées. Pendant ce temps-là, on a un produit qui est homologué partout dans le monde, sauf ici, auquel on aurait accès. Il y a des lignes de vêtements, là, même dans le domaine de la chasse. Ce n'est pas un commanditaire, mais je le sais qu'il en fabrique un, la gamme Sitka, qui ont un ensemble complet anti-tique infusé de permethrine. Tu ne peux pas commander ça ici. Et pourtant, ce serait tellement simple. Tu mets ça sur ton dos, c'est réglé. Il y a des bas hauts, des bas qui montent jusqu'au mollet, infusé de permethrine, parce que c'est souvent aux chevilles que les tiques embarquent. Interdit d'importation ici, ça se vend partout ailleurs dans le monde. Ça n'a pas encore passé les tests et la certification de notre collège royal ici, puis des différents lologues au gouvernement. Lourdeur administrative, on veut reprouver ce que l'ensemble de la planète a prouvé, parce que nos normes sont soi-disant meilleures.
All right, prochain sujet, mon ami. Je trouve ça hallucinant parce que je ne sais pas, Pascal, si tu te souviens de ce qui s'était passé entre la Sûreté du Québec puis les Mohawks, mais il y avait eu des photos qui avaient été prises de confrontations où deux personnes se regardaient dans les yeux. C'était Soldat Cloutier, hein, de mémoire, Martin?
Oui.
Soldat
oui.
Cloutier puis Lasagne, ça se peut-tu?
C'était-tu Lasagne, Poutine ou Pizza? Je m'en souviens pas.
Mais ça, c'était Lasagne. Puis,
écoute... Tu parles de la crise d'Oka, là.
Exact, la crise d'Oka. Puis là, à chaque fois qu'il y a des confrontations avec les Premières Nations, tout le temps, un membre des Premières Nations puis un membre blanc qui décide de se faire un combat de bedaine puis se regarder dans les yeux. Puis là, ben, t'as des photographes qui arrivent, ils prennent cette photo-là. Et là, ça devient comme l'image du conflit entre les gens des Premières Nations puis les Blancs qui veulent faire des coupes. Ça brasse entre les Premières Nations puis les Blancs, là, des travailleurs forestiers, c'est dans le secteur de la oui. Haute-Mauricie. Puis ça serait en lien avec le fameux projet de loi 97.
Exactement, exactement. Puis je te corrigerai en disant ça brasse entre les Premières Nations puis les forestières. Parce que les Blancs, présentement, ce que Kate aime pas que j'appelle la tribu des pieds plats, là, on tente de travailler avec les Premières Nations pour... Puis on va s'entendre, là. Dans le projet de loi 97, là, ce qu'on tente d'obtenir... C'est pas l'abolition, c'est le droit de parole. Parce que le projet de loi 97 a été mis en place par le ministre Mété Blanchette après une consultation entre le gouvernement et les compagnies forestières. Aucun autre utilisateur ou groupe d'utilisateurs de la forêt n'a été consulté. Ni les fédérations, ni les associations, ni les autres compagnies, propriétaires terriens, gestionnaires de territoire, personne. Alors, ce qu'on revendique, c'est de pouvoir nous aussi apporter notre input parce qu'on utilise aussi la forêt. Il y a une biodiversité qui est à protéger. Maintenant, les Premières Nations, et ça, c'est la partie où est-ce que je ne suis pas tout à fait pour ce genre, ben, je ne suis pas pour ce genre d'agissement-là, ils vont avec les fameux blocus. Donc, ils vont vraiment empêcher les opérations forestières. La problématique, en mon sens, et pas au niveau des forestières, mais plutôt de forcer le gouvernement à admettre l'ensemble des utilisateurs à la table des négociations et à la table de concertation. De faire ce genre de pression-là auprès des forestières, mais dans un premier temps, il y a des villages entiers qui ne survivent que par les travaux de foresterie. Donc, on empêche des gens de gagner leur vie littéralement. Au moment où est-ce qu'en fait, les forestières sont dans leur plein droit, où est-ce qu'ils sont? Je ne dis pas que c'est la bonne chose. Je dis qu'ils sont dans leur plein droit parce que le ministère leur a donné un mandat, leur a donné un OK, leur a donné un go d'aller exploiter dans ce territoire-là. Alors, ce n'est pas la forestière qu'il faut adresser. Ouais. Il faut adresser le ministère pour ramener les forestières à la table, mais avec l'ensemble des acteurs fauniques, puis on restart la négociation sur le projet de loi 97 parce que présentement, si on lit le papier de la ministre Mété Blanchette, noir sur blanc, ce qu'elle dit, c'est qu'on va donner un tiers des forêts aux forestières sans aucune possibilité de mettre des plans de protection en place, même s'il y aurait des espèces en voie de disparition. Un tiers à la protection, donc à la conservation, et un dernier tiers à tout autre utilisateur de la faune, un tiers dans lequel les forestières vont pouvoir aussi faire des travaux de récolte qu'on appellera modérés. Alors là, ce sont tous ces autres utilisateurs de la forêt-là qui n'ont pas été entendus, qui disent « attends un petit peu, là, on ne peut pas faire ça de cette façon-là ». Peut-être qu'il y a un tiers qui peut être légable aux forestières. mais avec un droit de regard sur, par exemple, la préservation des environnements, la loi sur la mise en valeur, la conservation des milieux fauniques. Et si on a un caribou forestier ou un orignal qui est en danger, on veut pouvoir mettre des moyens de protection dans ces endroits-là. On veut que ce soit fait en considérant l'ensemble des acteurs fauniques. Alors, présentement, les blocus dont tu parles, ça brasse beaucoup. Et c'est là où est-ce que, malheureusement, Première Nation et Blanc se divisent énormément parce que lorsque les Blancs tentent de s'en mêler, bien, on se fait dire haut et fort à plusieurs reprises sur les différents médias sociaux et dans les différents médias traditionnels. Bien, les Blancs, vous n'avez pas d'affaire dans ce débat-là. Sortez de la forêt, c'est notre forêt, c'est nos gibiers. Vous êtes les immigrés sur notre territoire. Alors, il y a un groupuscule de Première Nation qui utilise ce langage-là. Et malheureusement, c'est comme dans n'importe quoi. Hein. L'exception fait la règle. On entend ce groupuscule-là et on l'applique sur l'ensemble des Premières Nations. Quand on sait très bien que ce n'est pas l'opinion de l'ensemble des Premières Nations, mais d'un groupuscule d'individus, le reste des Premières Nations veulent s'asseoir avec les Blancs pour faire front commun parce qu'eux ont les accords ancestraux. Nous avons le nombre pour assurer la représentation auprès des offices gouvernementaux en se servant des accords ancestraux des Premières Nations, en obligeant au discours, à s'asseoir à table de négociation avec l'ensemble des acteurs. Ça, c'est la vraie revendication, ouais. Mais ça ne passera pas par des blocus.
Mais tout le monde doit travailler ensemble là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais il y a des gens qui vont faire des bacs à l'université pour apprendre à comment faire des coupes qui ont du bon sens et qui vont aider la forêt. T'sais. On parle de coupes à blanc, des fois, ça peut faire peur. Là. Puis je comprends que des fois, leur territoire de chasse, eux autres, de leur côté, peuvent être menacés pendant un certain temps. Mais en bout de ligne, certaines coupes à blanc, à certains endroits qui sont ciblés, quand les arbres sont rendus hyper matures et sont pratiquement en fin de vie, ben ça revitalise la forêt, Martin. Est-ce que je me trompe?
Écoute, tu vas sauver des populations d'orignaux en créant des bûchers. En créant des bûchers, tu vas ramener la bouffe à leur hauteur, à eux autres. Puis ça, là, moi, je le comprends très, très bien. C'est je reviens à la base. Ce que ça prend là-dedans, c'est pas de crier « les forestières n'ont pas raison, la ministre Mété Blanchette n'a pas raison, un tel n'a pas raison ». C'est juste de considérer l'ensemble des acteurs fauniques parce que oui, ces forestières-là, ils ont des connaissances là-dedans, ils savent comment le faire. Maintenant, les mandats qu'ils ont sont donnés par le gouvernement dans un plan de gestion. Hein, c'est le plan de gestion forestier. C'est ça qu'on réadresse avec la loi 97. Et ce plan de gestion forestière-là, c'est celui qu'on veut adresser. Alors, les forestières doivent être assis à cette table-là parce qu'ils doivent apporter leurs connaissances, leur input, leur comment faire. Mais les gens de la conservation, les biologistes doivent être là aussi pour mettre les méouédons carniards puis là, faire répondre les forestières qui ont les bonnes réponses à ça. Si on travaille tous ensemble là-dedans, hein, on peut sauvegarder et la faune et la flore et continuer à quand même récolter des arbres pour faire des sous, pour faire des meubles, du papier de toilette, puis etc. Fait que tout le monde va être propre.
Avec votre belle gang, on va tous être réunis le 30 aux Galeries de la Capitale dans la section Jeux et divertissements parce que vous faites le lancement de votre entreprise.
Absolument. On fait le lancement de la saison 2025-2026. En fait, on faisait ça dans le passé. On a pris un petit break de 3 ans là, de lancement. Là, on ramène les lancements, mais en version beaucoup plus grande avec le Mégaparc des Galeries de la Capitale. Je vous rappelle que les billets sont en vente présentement sur l'aventurechassepêche.ca. Là. On est tout près de 100 000 $ de prix à remettre pour les gens qui vont être sur place ou encore en live. Il faut acheter vos billets. Ils sont en pré-vente actuellement. La pré-vente finit dans 2 jours. Il y a des grosses annonces, il y a des nouveaux prix qui se sont ajoutés. On parle de safari en Afrique du Sud, on parle de forfonds pour voirie, on parle d'embarcation, on parle d'énormément de stocks. Les grosses vedettes sur place, Pascal Cévé qui va être là, Yannick Marceau qui va être là aussi. On vient d'annoncer aussi l'homme panache, donc Réal Langlois, l'homme panache qui va être sur place de Rackman. C'est un personnage mythique dans le domaine de la chasse et de la pêche pour toutes les générations. On va être sur place et on va annoncer d'autres personnages qui vont être sur place, d'autres invités de marque qui vont être sur place dans les prochains jours. Ce soir, 20h sur les réseaux sociaux, d'Aventure Chasse-Pêche et sur le site aventurechassepêche.ca. On est en live, on recommence la saison des lives et on vous présente, vous allez capoter, là, l'ensemble des prix à gagner puis qui, entre autres, vont être là. On ne dévoilera pas tout à soir, mais on vous en dévoile une coupe. Réal Langlois, l'homme panache, est dans le live à soir avec nous autres. Venez voir ça, vous allez avoir tous les détails. Et écoutez, c'est votre occasion d'avoir votre autographe de Yannick Marceau. Passez pas à côté.
Yann, tu vas signer des autographes avec un Sharpie?
Il répond pas.
Non, j'embarque pas là-dedans.
Morceau, signé en 2025.
Martin m'a dit, Yann, il va avoir de la bière, j'ai dit ces bouches-là. C'est tout.
Mesdames, vous savez où demander votre premier autographe de Yannick Marceau.
Salut Martin.
Salut.
Salut.
Bye.
Salut.
Notre excellent chroniqueur chasse-pêche. Ah, tu vois, je suis un peu rassuré pour ce qui est de la, ben, en fait, de la truite. Là, c'est un parasite, puis si tu le fais cuire, tu n'auras pas de problème avec ta santé.
Mais il ne faut pas que ça continue. Puis je trouve que les deux types, là, les chasseurs-pêcheurs versus les plaisanciers, c'est un peu différent dans l'approche de laver leurs embarcations. Il y en a, on dirait qu'ils s'en foutent vraiment, vraiment beaucoup, mais c'est vrai, là, ça prolifère des algues, des parasites. Il faut faire attention à ça. Les planches à pagaies, les chaloupes.
Écoute, je ne sais pas si ça a changé. Là. Moi, ça m'avait marqué 2008-2009. Je changeais d'état, puis il y avait comme une quarantaine de camions avec des bateaux derrière. Puis il y avait des policiers qui surveillaient le lavage des bateaux. Puis je pense qu'il faut qu'ils libèrent l'eau qu'il y avait dans le bateau aussi. Tout ça, c'est sous haute surveillance. Fait qu'eux autres, ça fait des années et des années qu'ils surveillent ça. Ici, j'ai pas l'impression que... Bon, il y a certains endroits, ils sont peut-être un peu plus attentifs, mais j'ai pas l'impression que les gens prennent conscience du danger que ça peut faire d'amener telle catégorie d'algues dans un autre lac ou telle catégorie de parasites dans un autre lac. Ça
et
peut être catastrophique.
Il faut vraiment.
13h29, on fait une courte pause. Si vous avez des choses à nous dire, c'est le 88 971 101.